Christopher Tasty, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes responsable de la communication de l'association des Quatre Chemins située à La Paillade qui œuvre toute l'année sur plein d'activités. J'aimerais qu'on fasse quand même le point sur l'adaptation de vos activités à l'épisode Covid. On a entendu parler de la mobilisation des habitants sur la fabrication de masques.
Absolument. C'est-à-dire que, bon, alors déjà, il faut replacer dans le contexte. C'est-à-dire que après le 15 mars, les personnes de l'association Les Quatre Chemins ont appris que le confinement aurait lieu, donc serait mis en place. C'est vrai qu'on a été dans la sidération, un peu tous, hein. Pendant quelques jours, on s'est posé la question de savoir comment on allait pouvoir agir, etc. Et puis, Kamel Barra, qui est la locomotive de cette association, nous a proposé, après quelques temps, de nous inscrire en tant que structure et en tant que volontaire à la nouvelle réserve civique citoyenne Covid-19 qui avait été créée par le gouvernement. Donc, ça nous a permis, de pouvoir réenvisager, des déplacements à l'association pour mettre en place une continuité à nos activités, parce qu'on a déjà plusieurs activités au long cours qui ressemblait un peu aux missions qu'on a mis en place. Alors le masque, effectivement, c'était quelque chose d'un peu particulier parce que bon, faut bien dire que avant la crise sanitaire, c'était pas une de nos activités. Bon, comme tout le monde, on a découvert ça. Donc, on s'est mobilisé à travers la réserve citoyenne en s'inscrivant, en essayant de mobiliser des volontaires. On a d'abord répondu à une offre de la réserve civique qui était la distribution de masques. Alors la distribution de masques, étant donné que on était déjà en lien avec le Secours populaire et d'autres associations, d'autres personnes du quartier de la Motion qui sont des couturiers ou des couturières, hein, il y a beaucoup de mamans qui font de la couture dans ces quartiers, qui se regroupent en associations, etc., enfin qui font dans le cadre associatif, on a pensé qu'on pourrait éventuellement aussi produire les masques. Voilà. Donc, on a lancé, on va dire, toute une filière complète de production. Et enfin, filière, c'est entre guillemets, on n'est pas du tout c'est pas du tout le sens commercial, hein. Mais enfin, en amont, on a fait la production avec l'approvisionnement en tissu. C'est des dons de particuliers, des gens du quartier qui nous ont apporté leur aide avec le tissu. L'association a acheté quelques bobines, du fil, des aiguilles, le minimum de fournitures pour pouvoir mettre en place une petite production dans les locaux. Alors voilà comment c'est parti cette idée de masque, et on s'est dit qu'on pourrait tout faire jusqu'à la distribution. Gratuite évidemment, hein. Je rappelle qu'on distribue des masques donc barrières, c'est des masques en tissu, qui sont des masques vraiment pour une protection basique. C'est d'ailleurs ce qui va être distribué dans les collectivités territoriales et très prochainement, hein. Donc ce sont des masques aux normes AFNOR qui sont parfaitement reconnus et qui sont distribués ensuite gratuitement à la population, aux gens qui en ont le plus besoin. Voilà.
Alors nous sommes début mai, depuis le début du confinement, combien de masques produits, combien distribués? Et est-ce qu'on peut parler de la mobilisation concrète des habitants? Parce que la réserve citoyenne, ça permet d'étendre aussi le bénévolat de votre association, puisque c'est plus large. Mais quelle est la mobilisation des habitants du quartier sur cette action-là en particulier?
Alors, bon, la mobilisation était déterminante, parce que comme je vous l'ai dit, c'est vrai qu'on a compté beaucoup sur le réseau qu'on avait déjà dans l'association, puis le bouche à oreille, et puis c'est vrai qu'il y a des gens qui nous ont connus à travers la médiatisation qu'on a fait de nos actions. C'était surtout pour essayer de faire connaître l'action et de collecter, parce qu'on a une association qui a très peu de moyens, pour collecter des aides en matériel. Alors, on a eu des aides au niveau des machines à coudre, des prêts. Mais on a eu aussi pas mal de tissus qui ont été fournis. Ça nous a permis, pour l'instant, de réaliser à peu près, je crois qu'on doit être à 500 masques. C'est toujours en cours, hein. C'est un chiffre qui est tout le temps réajourné. Mais enfin, on est à peu près dans cet ordre-là pour l'instant, avec des gens qui travaillent à leur rythme. On a des gens qui sont déjà assez aguerris, qui sont des couturiers dans la vie, qui se sont mis à disposition de l'association gratuitement pour continuer l'activité de couture, pour faire des masques. Et puis il y a des personnes qui étaient un petit peu plus, disons, qui pratiquaient ça un peu plus en dilettante, qui s'y sont mis et qui ont produit un peu moins. Mais enfin, toutes les aides sont bonnes à prendre dans ces circonstances. Et aujourd'hui, on a à peu près à ce volume de masques produits. Voilà.
Une autre adaptation à une activité qui existait déjà, c'est l'opération de devoir fait, puisque vous êtes dans le quartier de la Paillade, qui vise à accompagner la scolarité des élèves du quartier en lien avec les établissements scolaires. Vous avez adapté cet accompagnement-là par du soutien scolaire et du tutorat à distance?
Oui, alors pareil, là, ça faisait déjà plus de 2 ans qu'on avait une activité donc d'accompagnement et de soutien scolaire dans l'aide aux devoirs qui se pratiquait au sein des locaux de l'association, c'est-à-dire dans le quartier de la Mosson, avec des enfants issus principalement du quartier. Avec le confinement, avec les règles qui ont été mises en place pendant la crise sanitaire, nous n'avons plus pu accueillir ces enfants dans les locaux. Donc, il a fallu trouver, encore une fois, à travers les démissions de la réserve civique, on a pu mettre en place une activité de soutien scolaire à distance, un tutorat à distance. On l'a appelé de cette manière-là sur la plateforme. On était en lien avec les familles et qu'on a ressenti vraiment un besoin de leur part d'accompagnement, parce que c'est très difficile, hein, vous savez, tout le monde l'a vécu, moi aussi, à la maison, j'ai un enfant, j'ai de 6 ans, j'en ai qu'un, et ça a été très difficile de lui faire faire ses devoirs dans la continuité. Enfin bon, on est tous complètement bouleversés par cette épreuve, hein, on ne sait pas comment s'organiser, donc les familles ont fait appel à nous, on a mis en place ce tutorat à distance, donc on a sélectionné, nous, à l'association, parmi les volontaires de la plateforme civique, on a sélectionné les profils qui nous paraissaient adaptés pour pouvoir être mis au devant des enfants et les accompagner dans ce tutorat. Et ensuite, on a contacté les familles, on a servi un peu de tiers de confiance dans l'histoire pour essayer de mettre en relation ces nouveaux tuteurs, alors qu'on ne connaissait pas, parce qu'il y a des gens qui se sont déclarés même de très loin. Hein. On a des gens qui sont à Bordeaux, on a des gens qui sont à Marseille. Alors, c'est fabuleux d'avoir des gens de Bordeaux qui aident au tutorat des enfants du quartier de la Mosson. C'est quelque chose qui nous a... Enfin, bon, je veux dire, c'est quand même assez particulier et on trouve ça fabuleux. Et donc, ce tutorat à distance, on aimerait vraiment le pérenniser dans le temps pour pouvoir faire une variante de l'activité devoir fait ensuite, quand on reviendra dans des conditions normales et qu'on puisse avoir à la fois des enfants qui viennent dans les locaux de l'association pour bénéficier d'un accompagnement au devoir, et pour ceux qui peuvent pas se déplacer, qui sont un peu plus loin, qui n'ont pas la possibilité de venir, eh bien organiser peut-être une continuité dans ce tutorat à distance, pourquoi pas.
Alors justement, poursuivons un peu sur le profil de ceux qui assurent ce tutorat. Il y a qui, des enseignants à la retraite, des étudiants qui s'ennuient en ce moment?
On en a peu dans l'enseignement, mais il y a surtout des gens qui sont de très bonne volonté, qui ont du temps à donner, évidemment, par nature, en ce moment, et qui sont, qui ont un cœur, hein, qui sont extrêmement charitables, qui veulent pas rester les bras croisés devant la crise. Bon, on sait très bien qu'il y a des personnels de santé, de sécurité, les pompiers, etc., qui sont déjà mobilisés en première ligne. Et puis, il y a derrière des gens qui veulent absolument aussi agir. Alors, c'est la solidarité qui s'est mise en branle, là, pendant cette période. Et puis, on n'a pas forcément, donc, des gens qui viennent qui sont des professionnels aguerris, mais en tout cas, pour ce qu'on leur demande de faire, déjà, on sélectionne sur le profil, hein, on met évidemment pas n'importe quel profil au devant des enfants, parce que c'est un domaine qui est très sensible. Donc, à partir du moment où on a sélectionné des gens qui sont en capacité, c'est des étudiants, la plupart du temps, qui veulent pouvoir donner de leur temps pour ces enfants et les encadrer. Alors, ils font ça très très bien, et je pense que c'est peut-être, on suscite quelques vocations pour l'avenir aussi, hein. Voilà.
Ça participe aussi du désenclavement du quartier, sachant que pourtant à la Paillade, il y a beaucoup d'associations. C'est un territoire très dynamique, très actif, où il y a beaucoup de solidarité, de proximité. Cet accès au numérique, ça permet le désenclavement virtuel du quartier?
Alors oui, c'est vrai qu'on peut critiquer le tout numérique, hein, dans l'enseignement, dans la scolarité en général. Il y a pas mal de gens qui y sont opposés, mais aujourd'hui, c'est vrai qu'on est dans l'obligation, je dirais, de s'appuyer sur des moyens technologiques modernes, et que même si on ne va pas privilégier, évidemment, ces outils par rapport à la relation physique que les enfants peuvent avoir avec un enseignant, Je pense que ça va être une composante importante de la vie scolaire des enfants à l'avenir. Alors, le désenclavement, vous en parlez, c'est une très bonne chose parce que c'est vrai qu'il y a la fracture numérique, elle existe vraiment dans les quartiers et que nous, on est confrontés à des situations où les familles sont en demande à la fois d'accompagnement, mais aussi de technologie, de matériel.
Vous avez deux actions, vous avez Cybercitoyen et la petite école numérique.
Petite école numérique, son nom m'échappait. Alors, le cybercitoyen, c'est autre chose. C'est plus une prise de conscience sur le danger que peuvent représenter les réseaux sociaux, hein, donc avec les jeunes. Donc, on essaye de leur faire un rappel, déjà un rappel à la loi et puis un rappel à tout ce qui est peu éventuellement les aliéner sur les réseaux sociaux. Mais on a effectivement la petite école du numérique avec déjà, alors c'est plus l'aspect pédagogique, hein, sur la prise en main des logiciels de bureautique, hein, dont tout le monde a besoin. On arrive à mettre à disposition donc de certains enfants déjà du matériel en don, en prêt ou en don. Voilà, en fonction des travaux qu'ils font à l'association, donc c'est du donnant-donnant aussi, parce que c'est important que on ait cette notion aussi de certaine manière de récompense. Il y a des enfants qui font du travail dans le jardin, par exemple, ou à l'association qui aide, hein, bénévolement, hein, puisque le jardin fait aussi partie de nos actions d'éducation à la citoyenneté. C'est pas du tout pour essayer de produire des fruits et légumes et les vendre sur les marchés. C'est simplement, on a un petit jardin qui produit pas grand chose, mais c'est symbolique pour apprendre le rapport à la nature, hein. Je fais une parenthèse pour pas que ça soit mal interprété. Mais en contrepartie d'un certain nombre d'actions qu'on fait où on demande un présentiel, pour pouvoir faire des activités sous forme pédagogique, eh bien, ces enfants se voient remettre un ordinateur qui leur permet aussi de pouvoir participer à des actions comme le tutorat à distance aujourd'hui. Donc, effectivement, il y a un problème d'accès au matériel qui est fondamental et on le voit dans cette période où la technologie résout énormément de problèmes, en fait, hein, dans la mise en relation avec des tuteurs et des gens qui peuvent participer à l'encadrement.
Alors, on peut être équipé et avoir des difficultés à utiliser les outils. Les jeunes, des fois, savent mieux se servir des outils informatiques que leurs parents. En tout cas, dans les quartiers, c'est quelque chose qui s'observe. Ce travail d'éducation aux médias se fait aussi avec les parents ou pas ?
Au niveau générationnel, il y a une forme d'inversion un peu des valeurs. Jusqu'à maintenant, c'est vrai que c'était les parents qui avaient l'autorité sur tout, qui savaient, qui avaient l'expérience. Et puis, avec les années 2000 et l'arrivée du numérique, tout ça s'est un peu inversé. Alors, c'est vrai qu'on a beaucoup plus de facilité, parfois, à communiquer directement avec les enfants. Enfin, bon, après, on fait très attention et les parents doivent être conscients aussi des outils, comme le contrôle parental qu'on met en place et sur lesquels on fait de la pédagogie aussi, hein, pour qu'il y ait un certain contrôle qui soit fait, parce que le numérique, et je le disais avec les cybercitoyens, ça a des très bons côtés, mais ça peut aussi devenir un danger pour les enfants, donc il faut absolument que les parents soient conscients des limites du numérique.
On parle de la difficulté de l'observance des consignes de confinement dans les quartiers politiques de la ville. Est-ce que vous le remarquez dans le quartier de La Paillade, cette difficulté de rester chez soi ?
Je me déplace beaucoup moins à La Paillade depuis le 16 ou le 17 mars, mais depuis le début du confinement, évidemment, parce que on est assez restreint, même si on a la possibilité dans le cadre de la mission de la réserve civique de se déplacer, on n'en abuse pas non plus quand même. On fait pas mal de réunions d'ailleurs en visioconférence, hein, pour essayer de limiter aussi un peu nos rapports directs. Alors moi, ce que j'ai vu quand je me suis déplacé sur le quartier de la Mosson, et pour en avoir parlé aussi avec des gens de l'association qui habitent directement dans le quartier, c'est que dans l'ensemble, c'est assez bien respecté. Voilà. Et quand je passe en voiture, parce que moi j'habite en dehors même de Montpellier, donc je traverse toute La Paillade pour venir à l'association, et c'est vrai que je ne vois pas plus de gens dans la rue. Évidemment, il y a toujours quelques personnes qui font leurs courses, quelques personnes qui vont au travail, mais je ne vois pas plus, franchement, de personnes dans la rue ou des attroupements que ce que je peux en voir dans mon petit village du nord de Montpellier. J'ai jamais vu autant de gens qui faisaient faisais du jogging par chez moi que pendant la période du confinement, ce qui se comprend, hein, puisque les gens ont besoin de sortir. Mais je veux dire, c'est pareil. À la paillade, les gens ont peur pour leur santé. Ils font très attention aux mesures qui ont été mises en place. Et dans l'ensemble, moi, je trouve que ça a bien respecté. Voilà.
Du coup, il est à l'arrêt le bus des petits lecteurs.
C'est une action qui est tournée autour des mesures éducatives sur la sensibilisation au lire, écrire, compter et respecter autrui, qui a été mis en place l'année dernière. Alors, c'est un bus qui est itinérant. Hein, par principe, il est itinérant et il va au contact des parents et des enfants dans les quartiers défavorisés, en principe, de Montpellier. Donc, c'est-à-dire qu'on a ciblé en priorité la Paillade et le Petit Bar et d'autres, mais c'était à peu près les itinéraires qu'on souhaitait suivre. Et bon, c'est vrai qu'en ce moment, avec la période de confinement, c'est une activité qui est impossible puisqu'il y a une rencontre physique qui se fait. Mais on espère pouvoir le remettre en vigueur dès que la crise sanitaire sera passée, parce que c'est une très très belle opération qui permet à la fois aux enfants d'être sensibilisés sur l'importance de maîtriser les savoirs fondamentaux, mais c'est aussi une action sur la parentalité, parce qu'il faut bien savoir que l'école ne peut pas forcément régler tous les problèmes qui sont liés à l'éducation. L'éducation, c'est bien plus large que l'école. On en demande parfois beaucoup à l'école, mais en dehors, il faut absolument que les parents soient sensibilisés au fait de faire les devoirs, par exemple, le soir. Il y a des associations qui accompagnent pour ça, mais enfin, les parents doivent être responsable de ce qui se passe aussi en dehors de l'école et essayer de faire circuler un certain nombre de valeurs. Voilà, c'est ce qu'on fait à travers ce bus des petits lecteurs. C'est autant pour les parents que pour les enfants. Voilà.
Une dernière question avant de nous quitter. Les quatre chemins, le nom de l'association et son histoire.
Alors, moi, j'étais pas là, hein, parce que j'ai rejoint l'association il y a à peu près un an, mais l'association a été réactivée il y a 2 ans de ça. Mais au départ, c'était pas une association qui était dont l'objet était l'éducation à la citoyenneté. Je crois que c'était une association plus culturelle. Elle a été fondée il y a quelques années, elle a été mise en sommet, elle a été réactivée par Kamel Barra. Et donc, il a voulu donner cette tournure plus éducative, plus dans la citoyenneté, plus dans le rapport à la loi. Moi, j'ai connu Kamel à cette époque-là, donc je ne peux pas vous faire l'historique complet, malheureusement. Mais enfin, je pense que, en gros, on a expliqué les principales actions de l'association, maintenant, depuis qu'elle a été réactivée, en tout cas. Voilà.
On a l'impression que dans chaque quartier politique de la ville de Montpellier, il y a un jeune issu de ces quartiers qui joue le rôle de grand frère, hein, comme on l'utilisait, cette mauvaise terminologie depuis quelques années, qui s'investit dans le tissu associatif.
Oui et non, parce que je pense qu'aujourd'hui, ce qu'on essaye de faire à l'association Les Quatre Chemins, c'est justement, vous parliez de désenclavement tout à l'heure, le désenclavement, pour moi, il est aussi que on puisse faire revenir des gens qui ne sont pas originaires de la Paillade ou des quartiers, entre guillemets, les quartiers prioritaires de la ville, qu'on puisse les faire revenir dans ces quartiers pour œuvrer, pour y mener des activités. Moi, c'est mon cas. J'habite un petit village plutôt aisé du nord de Montpellier, mais à travers la rencontre que j'ai fait sur le quartier de la Paillade avec des gens extrêmement chaleureux qui sont devenus des amis maintenant, j'ai eu l'envie de m'investir comme d'autres, hein, parce que tous les bénévoles ne viennent pas de la Paillade dans ce quartier, parce que vraiment il y a énormément de chaleur dans ce quartier, et puis on y met des actions, on se sent utile aux autres, et c'est important. Et je pense que oui, effectivement, même si Kamel est originaire du quartier, il n'y habite plus aujourd'hui, mais ça lui donne une certaine connaissance, en tout cas, de la localité. Il ne faut pas que ça reste exclusivement une affaire de, entre guillemets, le grand frère, parce que c'est vrai que ça a été assez galvaudé et mal connoté avec le temps, parce que bon, ensuite il y a eu quelques récupérations peut-être politiques de la fonction, mais enfin, on n'est plus là-dedans maintenant du tout, heureusement. Et il faut absolument qu'on puisse mêler, et c'est le sens de nos actions aussi quand on communique, et on le voit, c'est un impact aussi sur des gens qui habitent le centre-ville, qui habitent des villages avoisinants et qui ont absolument envie de s'investir, parce que la paillade, ça reste quand même un endroit où il y a énormément de tissu associatif, il est très dense, et donc on peut trouver facilement quelque chose qui soit en accord avec ses convictions, avec sa sensibilité dans ses quartiers. Donc c'est pour ça que c'est assez riche, quoi.
Il y a d'ailleurs une fierté d'appartenance au quartier, mais plutôt pour la génération des Chibani qui ont occupé le quartier à sa construction par rapport à la génération des jeunes qui ne se vantent pas d'y habiter ou pour qui l'identité ne passe pas par le quartier.
Oui, c'est possible. C'est possible. Bon, c'est vrai que j'aurais un peu plus de mal à rentrer dans ce genre de considération parce que je n'y vis pas et que bon, c'est peut-être pas à moi de juger la manière dont les gens voient leur propre quartier évoluer. Mais enfin, moi, personnellement, par rapport aux amis que j'ai à la Paillade, qui sont dans l'association ou pas d'ailleurs, je trouve qu'il y a énormément de fierté d'appartenir à un quartier populaire, une identité forte dans la ville de Montpellier. Il y a énormément de fierté. Alors, c'est vrai que maintenant, il y a pas mal de gens qui sont partis du quartier. La configuration a un peu changé. La jeunesse dont vous parliez, parfois, est un peu en recherche de repères, un peu désœuvrée. C'est vrai qu'on ne peut pas dire que la situation est forcément toujours idéale pour ces jeunes qui, bon, on sait il y a un taux de chômage qui est assez important. Donc, c'est vrai que ça rejaillit ensuite sur l'ambiance, sur un certain nombre de choses. Mais il y a énormément de positivité aussi dans ces quartiers. Et moi, je pense que l'avenir, il y a une part de notre avenir à nous qui est dans ces quartiers. On parle beaucoup de proximité maintenant, de circuits courts. On parle d'économie circulaire. Il faut voir comment dans ces quartiers, déjà, on a le sens du système D. Et ça, c'est très important. C'est-à-dire qu'on peut localement résoudre un certain nombre de problèmes que aujourd'hui, notre société un peu aseptisée a préféré externaliser, délocaliser. Dans ces quartiers, on sait tout faire. Voilà. Donc, il va falloir peut-être réadapter notre état d'esprit et peut-être repartir aussi de ces personnes qui ont gardé un savoir-faire, qui font de l'artisanat, qui savent travailler, qui ont pas mal d'aptitudes, de compétences. Je pense qu'il y a beaucoup à faire avec ces quartiers. Je crois que c'est un peu notre avenir aussi. Voilà.
Puis de la solidarité de proximité qui est culturelle, là où dans les centres-villes, on a l'impression que le Covid a renforcé le lien avec ses propres voisins que, ma foi, on ne connaît pas.
Oui, alors ça, c'est vrai que culturellement, dans un quartier populaire, déjà de par la densité, il y a beaucoup plus d'entraide naturellement. Moi, je vois encore, je fais la différence. Vous parlez du centre-ville, où j'ai habité Montpellier aussi pendant un moment. Dans les villages, enfin surtout dans le mien, c'est encore pire. L'individualisme a été poussé à l'excès, c'est-à-dire qu'on connaît le voisin de droite et le voisin de gauche quand on habite dans une maison individuelle, et puis c'est tout. Et là, bon, c'est vrai que par la force des choses, on a redemandé à ses voisins s'ils n'avaient pas besoin de cours, s'ils n'avaient pas besoin de masques ou de choses comme ça. Alors, on réapprend à se connaître, mais dans les quartiers populaires, c'est naturel. L'entraide est présente en permanence. Donc, c'est vrai que le contexte est un peu particulier. Il y a pas mal de peur, ce qui est normal. Tout le monde craint pour soi-même, pour les siens, pour son entourage, et ça renforce encore un peu d'ailleurs le sentiment qu'on est un peu tous dans le même bateau et qu'il faut s'entraider. Mais je crois que l'entraide existe, préexiste déjà dans ces quartiers, et c'est un élément important. Là aussi, c'est une notion d'avenir. Voilà, on l'a perdu dans la frange un peu bourgeoise de notre pays. On s'est appuyé sur les services de l'État pour prendre en charge la solidarité ou la redistribution, et on se rend compte qu'on a perdu un certain nombre de valeurs de solidarité et de chaleur humaine, quoi. Voilà. Et je pense qu'il faut faire un mix entre les deux. On ne peut pas se passer de l'État, mais on ne pourra pas se passer non plus de la solidarité entre les personnes.
Merci Christopher Tasty. Je rappelle que vous êtes responsable de la communication de l'association Les Quatre Chemins à la Paillade et qu'on a fait le point ensemble sur votre implication dans la réserve citoyenne dans le cadre de la pandémie Covid-19, notamment sur le soutien scolaire par le tutorat à distance et la production et la distribution de masques. Merci.
Merci à vous, Laure. Merci beaucoup.